I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première fois, le podcast de 20 minutes consacré aux premières fois dans le sport. Aujourd'hui, retour sur un ancien rugbyman français qui a marqué son époque et longtemps détenu un record du monde assez exceptionnel. Découvrez l'histoire de Jean Prat, premier capitaine français qui a failli décrocher le Grand Chelem. C'est un récit d'Émilie Delettré.
Le Grand Chelem est sur toutes les lèvres en ce 26 mars 1955. Jamais le stade de Colombes, en banlieue parisienne, n'a accueilli autant de monde pour un match de rugby. Plus de 60 000 spectateurs n'attendent qu'une chose, une quatrième victoire de l'équipe de France en autant de matchs dans le prestigieux tournoi des 5 nations. L'exploit n'a jamais été réalisé par les Français depuis leur entrée en 1910 dans cette compétition. Le soleil est au rendez-vous, l'effervescence est à son comble, même si en face se dresse le Pays de Galles, une référence dans le monde de l'Ovalie. Qu'importe ! Le 15 de France possède dans ses rangs un joueur d'exception, Jean Prat, surnommé Monsieur Rugby ou Sir Jones par les journalistes britanniques. Il est vrai que Jean Prat sait tout faire. Alors qu'il joue troisième ligne au sein de la mêlée, il ne se contente pas de courir et de plaquer. Il marque aussi des essais, tape les pénalités et réussit les drops. Avec un tel phénomène, la France est capable de tout. N'a-t-elle pas renversé les légendaires All Blacks néo-zélandais l'année précédente grâce à un essai de son maître à jouer ? Hélas, le feu d'artifice promis pour ce France-Galles se transforme en feu de paille. Paralysés par l'enjeu, les Français sont rapidement menés au score. 11-0 à la pause. La France est neutralisée par l'agressivité des Gallois, pourtant pénalisée à 26 reprises au cours du match. Mais rien ne fonctionne chez les Bleus. Comble de la malchance, une entorse du troisième ligne, Domecq, prive la France de son 15e homme peu avant la pause. À 14 contre 15 en seconde période, la France fait pourtant mieux que se défendre. Sans parvenir à renverser le cours du match, défaite, 16-11. Pour Jean Prat, qui a annoncé en début d'année disputer son dernier tournoi, l'épilogue est bien triste. C'est alors que l'émotion va monter d'un cran dans le stade. Au coup de sifflet final, les Gallois se précipitent sur le capitaine français et le hissent sur leurs épaules pour le porter en triomphe. Un tour d'honneur est effectué sous les acclamations de la foule. Du jamais vu pour un Français, cette scène incroyable marquera pour de longues années les esprits.
Joris Vincent, bonjour. Vous êtes historien du sport et spécialiste du rugby. Aujourd'hui, donc, on parle de Jean Prat. Qui était ce joueur ?
Eh bien, Jean Prat est un joueur du football club Lourdes et il a été international et capitaine de l'équipe de France au début des années 50. Et Jean Prat est un symbole de l'équipe de France et en particulier du tournoi des 5 nations, puisqu'il est symbolisé comme l'homme des premières. Première victoire de l'équipe de France contre le Pays de Galles en 1948, premier succès en Angleterre en 1951, première victoire à Colombes contre les All Blacks en 1954, et il est le premier capitaine à être capitaine de l'équipe de France victorieuse du tournoi la même année en 1954.
Et en plus, c'est quelqu'un qui a détenu un record de points pendant très longtemps.
En effet. Donc, Jean Prat a aussi un palmarès très important au regard des années 50, puisqu'il va gagner 2 tournois des 5 nations. Il va être 6 fois titré en tant que champion de France entre 1947 et 1958 avec le Football Club de Lourdes. Et en même temps, il va être le meilleur réalisateur dans les tournois de 1951 et 1952. Et pour l'anecdote, il va marquer près de 2,82 points par match, ce qui correspond à peu près à 144 points marqués en équipe de France.
ce qui est quand même rare pour un troisième ligne, puisque sa particularité, c'est effectivement de botter, de faire des drops, ce qu'on n'a plus vu en fait dans le monde du rugby jusqu'à John Hills, l'Australien John Hills finalement.
Tout à fait, et c'est pourquoi la presse britannique, et en particulier le journaliste anglais Pat Marshall, va le surnommer en 1955 Monsieur Rugby. Pourquoi Monsieur Rugby ? Parce que, comme vous l'expliquez, eh bien, il est capitaine, il est troisième ligne, il est buteur, mais aussi il va avoir une carrière d'entraîneur, puis de dirigeant. Donc c'est un personnage très marquant de l'histoire du rugby au regard de toutes ses fonctions au cours de sa carrière.
D'accord, donc recordman de points jusqu'à dans les années 2000, où John Hills a réussi à le dépasser pour un troisième ligne, bien sûr, pour un avant, on va dire.
Puisque... Tout à fait, mais je pense que comme tout record, il faut le replacer dans le contexte de l'époque. Et dans les années 50, il n'y avait pas un grand nombre de matchs de rugby, puisque les rencontres internationales se résumaient au tournoi des 5 nations et éventuellement à des tournées dans l'hémisphère sud ou éventuellement à la réception des équipes de l'hémisphère sud, ce qui fait que le nombre de matchs était très limité. Or, John Hill va jouer à une époque où le professionnalisme commence à se développer et le nombre de matchs à se multiplier.
Oui. Aujourd'hui, pourtant, on a l'impression qu'il ne fait pas partie du panthéon du rugby français. Pour le grand public, il n'est pas très connu. Comment ça se fait ?
Mais je pense qu'il n'est pas très connu parce que aujourd'hui les icônes du rugby sont hyper médiatisées au regard du développement des différents médias et des différents réseaux sociaux. L'image de Jean Prat, elle est très importante dans les années 50 puisqu'il fait la une de l'ensemble des journaux spécialisés tels que Midi Olympique ou L'Équipe. Mais cette vision reste très centrée aux aficionados du rugby, aux supporters du rugby, et il est exposé simplement, comme je vous l'ai expliqué, à deux grands moment phare de la saison, c'est-à-dire au moment du tournoi des 5 nations en période hivernale, ou alors à la période estivale, printanière, au moment des phases finales, où il va être champion de France 6 fois avec le Football Club Lourdes. Or, aujourd'hui, les joueurs sont exposés de manière quotidienne, voire hebdomadaire, donc il est normal que l'image de Jean Prat s'évanouisse un petit peu dans le temps et au 21e siècle.
La France, est-ce que c'est déjà une grande nation de rugby dans les années 50 ?
C'est une grande nation de rugby, pas forcément en termes de résultats, mais en termes de qualité de jeu, puisqu'il y a toujours un petit peu cette idée d'un style très spontané, très ouvert des Français. Et puis, ils commencent à avoir, on va dire, un rapport de force beaucoup plus favorable, même s'ils ne sont pas vainqueurs. Ils contestent davantage les rencontres contre les équipes britanniques. Et puis surtout, il y a la victoire contre les All Blacks qui va, on va dire, marquer les adversaires et le rugby de la période.
Est-ce que cet épisode de porter en triomphe son adversaire, c'est quelque chose qui est arrivé souvent dans les matchs internationaux ?
Alors, c'est difficile à dire. Je pense que c'est quand même un événement assez unique au niveau de l'histoire du 15 de France, puisqu'il est porté en triomphe à la fois par ses partenaires et par ses adversaires. Mais il faut resituer cet épisode par rapport à l'avant du match. Monsieur Rugby, tel qu'il est surnommé par les Anglais, eh bien, avait fait une lettre aux supporters de l'équipe de France, demandant aux supporters et aux spectateurs de faire un accueil très positif et favorable au Pays de Galles qui allait jouer contre eux le lendemain. Et donc, c'est au regard de cette attitude de ce monsieur rugby, qui n'était pas un grand homme simplement sur le terrain de rugby, mais qui était aussi un grand homme en dehors du rugby. Et pour les Britanniques, c'est très important d'avoir cet esprit. D'ailleurs, pour lui, Jean Prat, le rugby est une façon d'être et de se comporter. De ce point de vue, les Anglais ont été toujours ma source d'inspiration. Ce qui prouve qu'il est complètement, il s'identifie complètement au modèle britannique, et donc ça explique toute cette reconnaissance sens que ses différents adversaires britanniques pouvaient avoir à son égard.
C'est un modèle de fair play, on dirait aujourd'hui.
Oui, c'est plus qu'un modèle de fair play, c'est un modèle, c'est un état d'esprit. Le rugby, pour les Britanniques, c'est avant tout un mode de vie, un état d'esprit. Et donc, il représentait l'ensemble de ses valeurs, et au regard de ses valeurs, il a été vraiment reconnu par les Britanniques.
Merci Jean-Yves Vincent.
Merci.
À bientôt. Première fois consacrée au rugbyman Jean Prat, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter dans le podcast 20 minutes, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.